cours de philosophie première à Saint-Jeudard le 20 décembre 1993 par le père Marie-Dominique Philippe.
manifester sa complexité en divisant. Et en divisant, vous le rendez intelligible. Alors, il y a le passage de la réalité existante qui est complexe à un principe de cette réalité. Et ceci, toujours par le point de vue inductif. Et l'âme de l'induction, c'est l'interrogation. Et comme l'interrogation joue un rôle capital, il faut comprendre ce besoin d'interroger. Pourquoi vous interrogez ? Vous interrogez pour supprimer la complexité d'une réalité qui, en tant que complexe, n'est pas intelligible et vous maintient dans l'interrogation. Alors, autre question. Vous avez dit au dernier cours que la substance est source des déterminations. Ce d'où viennent toutes les déterminations. Elle est source. Par les déterminations, je découvre la substance. Et découvrant la substance, je la découvre comme ce qui est à la racine de toutes ces déterminations. Ce à partir de quoi toutes ces déterminations apparaissent. En même temps, vous nous dites toujours que la substance est cause selon la forme des déterminations de ce qui est. C'est sûr. Ceci par l'interrogation. Le tiesti, qu'est-ce que c'est que l'être ? Qu'est-ce que c'est que l'être dans sa détermination ? Je vois les déterminations. Les sens me mettent en présence de toutes les déterminations, de toutes les qualités. Bon, je découvre les qualités. Et je me pose, et ces qualités existent. Et ces qualités sont multiples et diverses. Qu'est-ce qui est source de ces qualités ? Il y a une source, puisque à la fois elles sont multiples, diverses, et en même temps, elles sont toutes de la même réalité. Il faut donc qu'il y ait une source commune. La substance est saisie comme principe selon la forme de ce qui est, comme cause selon la forme de ce qui est. Donc, si elle est principe selon la forme de ce qui est, il y a une relation de dépendance entre la substance et ses déterminations. Alors, cette relation de dépendance, c'est justement de voir que la substance est source de toutes ces déterminations. Mais c'est le point de vue formel, donc selon la forme, qui m'intéresse. Le point de vue de l'efficience. Y a-t-il une causalité efficiente entre la substance et tout ce qui émane d'elle ? Alors, prenez, si vous voulez, pour avoir quelque chose de plus parlant à vos yeux. Pour moi, ma substance, c'est mon âme spirituelle. De mon âme spirituelle, on dira, émane l'intelligence. L'intelligence est une qualité. Elle n'est pas une substance en moi. C'est la différence avec le néoplatonisme. Et il y a une tendance aujourd'hui à regarder mon intelligence comme quelque chose de substantiel. Descartes, la substance pensante. La substance pensante dont je regarde l'intelligence comme quelque chose. de Descartes. Pas du tout dans le réalisme de l'être. Comment Descartes parle-t-il de substance pensante? Parce qu'il n'a pas saisi ce que c'était que la substance, tout simplement. Il est resté au niveau de la vie. Alors, la vie implique d'être source d'opération. Le sémo verré. Et donc, je regarde mes opérations les plus fondamentales et les plus immanentes. C'est penser, cogito. Je pense et je suis source de ma pensée. Donc, si je suis source de ma pensée, je suis autonome dans ma pensée. Et si je suis autonome dans ma pensée, il faut bien qu'il y ait les idées immanentes, les idées innées. Et je suis source de ma pensée. Le sémo verré. Donc l'autonomie la plus parfaite. Et c'est comme ça qu'il parle de substance pensante. Et ceci, c'est une conséquence, ou une dépendance, si vous voulez, de toute la pensée néo-platonicienne, qui considère en effet que l'intelligence est substance. C'est la seconde hypostase pour Platon. Tandis que si je fais l'analyse au niveau de l'être, je découvre la substance et je découvre l'âme comme ma substance, principe d'être. Et je dis qu'il y a des degrés dans la vie. Il y a la vie végétative, la vie, et ces degrés n'impliquent pas chacune une âme, mais tout simplement des puissances qui sont source d'opérations accidentelles et pas substantielles. Et donc l'intelligence en moi est enracinée dans ma substance, dans mon âme. Mon âme est source de l'intelligence. Et c'est pour ça que je dis que l'intelligence émane de l'âme. Mais faisons attention, ne disons pas qu'il y a entre l'âme et l'intelligence une causalité efficiente, comme celle de l'artiste par rapport à l'œuvre. L'œuvre et l'effet, est-ce que je peux dire que l'intelligence est l'effet de mon âme? Non. Elle est le prolongement. Et c'est là, je crois, toutes les confusions. Mais pourquoi le néoplatonisme dit que l'intelligence est substantielle? Parce que, justement, elle ne peut pas être l'effet de l'âme, mais elle peut dépendre de l'âme. Alors, il y a une dépendance existentielle et une dépendance selon la cause formelle. Mais s'il n'y a pas véritablement causalité efficiente, c'est assez subtil, je sais bien. Mais c'est pour essayer d'expliquer ce cas tout à fait particulier d'une substance source d'accident, de qualité, capable d'opération purement immanente. Intelligence, le cogito, je cogite, c'est purement immanent. Alors, il faut maintenir la dépendance du côté de la détermination. Et c'est pour ça qu'il y a ce mot émaner. L'intelligence émane de la substance, émane de l'âme. Je ne dis pas est effet, elle est ce qui permet à l'âme spirituelle d'opérer un acte de connaissance. Et l'acte de connaissance demeure immanent à mon âme. Et c'est parce que mon acte de connaissance demeure immanent à mon âme que j'ai la tentation de dire que l'intelligence l'intelligence est un vrai substantiel à cause de cette immanence. Et c'est vrai, la pensée n'est pas extérieure à mon âme. Quand vous pensez, vous demeurez dans votre âme spirituelle, je pense. Tandis que lorsque vous parlez à quelqu'un d'autre. Est-ce que vous pensez pour quelqu'un d'autre? Je pense pour toi. Qu'est-ce que ça veut dire quand vous dites je pense pour toi, mais je ne peux pas penser pour toi? Je voudrais bien de temps en temps, mais je ne peux pas. Quand vous êtes en face d'un pauvre type qui passe un examen et qui ne sait plus quoi dire, je veux dire je vais penser pour toi, je vais mettre une bonne note pour toi, je pense pour toi. Je ne peux pas faire ça. Tandis qu'à la rigueur, je peux dire je parle pour toi. Je parle pour toi parce que ta voix est incapable de porter plus loin. Alors, je porte pour toi. Et c'est du côté de la voix. Et on reçoit l'intelligence de l'autre. Et puis, je vais plus loin, mais je ne pense pas pour un autre. La pensée est immanente. C'est ça qui est si extraordinaire dans le lien entre l'intelligence et l'âme. Entre la substance et cette qualité éminente qui est l'intelligence. Qu'est-ce que c'est que l'intelligence? Qu'est-ce que c'est que le nous? La grande question d'Aristote. Et Aristote dit lui-même que c'est grâce à l'être et la découverte de l'être que je connais ce que c'est que le nous. Oui, ça c'est très très fort. Parce que ça montre très bien que le nous, en tant qu'il est capable d'opérer, n'est pas substance. Puisque c'est par l'être que je connais le nous. Et que l'être se divise tout de suite en substance et accident. Et donc le nous est accident de la substance âme. Mais dites-vous que c'est très très difficile à bien comprendre. Aristote est resté là-dessus, tout le De Anima est pour ça. Hein. Tout le De Anima, c'est pour comprendre ce que c'est que la vie spirituelle, la vie intellectuelle. Cette vie qui ne se sert plus d'organes physiques et qui provient pourtant d'un être dont la substance implique âme et corps. Non, c'est pas capable du tout. Hein. Votre substance, votre nature humaine implique âme et corps. Et vous êtes capable de poser des opérations qui sont au-delà du corps. Alors comment ça se fait? Comment ça se fait que votre substance est liée au corps? Parce que le corps est substantiel. Il fait partie de votre nature. Vous ne pouvez pas déposer votre corps. Pendant la nuit, je reste avec mon corps. Mais le matin, je laisse mon corps dans mon lit, je me lève. Et je dis, parce que tu es très embêtant. C'est vrai, tu es très embêtant. Moi, j'aime avoir une vie spirituelle. Je suis obligé de faire attention que je dois manger. Je dois me reposer. C'est très ennuyeux. Je n'ai pas envie du tout de ça. C'est très très curieux que de fait, dans l'homme, il y a ce phénomène. Il est substantiellement composé de l'âme et du corps. Et il est capable de poser des opérations qui sont, elles, purement spirituelles. Or, opération sequitur esse, l'opération suit. Le sujet suit la personne. Et dans la personne humaine, sa substance implique âme et corps. Et ses opérations peuvent être purement spirituelles, au-delà du corps. Alors il semblerait que la substance, prise en elle-même, a quelque chose de plus matériel que l'opération. Et l'opération dépend de la substance. Or, le plus ne peut pas revenir du moins. Alors comment ça se fait? C'est que l'âme est substantiellement spirituelle. Et donc elle peut être source d'opérations purement spirituelles, mais qui ne sont pas des opérations substantielles, qui ont un mode intentionnel. Mais c'est très très complexe, hein, le corps, le personne humaine. C'est pas simple du tout. Et la substance, alors je continue, parce que la substance implique-t-elle une certaine efficience à l'égard des déterminations de ce qui est? Pouvez-vous un peu, j'espère un peu, pas plus, expliciter? L'intelligence émane de l'âme. Et on a découvert ce mot émaner. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Ça veut dire provient. Mais provient d'une façon telle que ce n'est pas extérieur à elle. Vous voyez, alors, il y a un petit quelque chose de vrai dans le néoplatonisme. Et comme toujours, dans toute erreur, il y a un petit quelque chose de vrai. C'est que le néoplatonisme est très sensibilisé à ce côté spirituel, immatériel de l'intelligence. Ce côté spirituel, immatériel de l'intelligence, j'en ai l'expérience. J'ai l'expérience quand même de penser, et de penser au-delà de mon corps. Et parce que je pense au-delà de mon corps, je peux atteindre un être spirituel. Mais pour atteindre cet être spirituel, je ne peux l'atteindre parfaitement que par l'être. Au-delà de tout venir. Et quand je saisis la substance comme principe selon la forme de ce qui est, je saisis donc ce principe comme quelque chose de spirituel. Ce qui est premier dans l'ordre des déterminations est spirituel. La détermination n'est pas matérielle, puisque la matière est au contraire la détermination et la potentialité. Donc, dire que pour moi ma substance c'est l'âme, c'est dire que mon âme est spirituelle. Puisqu'elle peut atteindre l'être. Et l'être est premièrement spirituel. L'être est au-delà de la distinction matière et forme. Et au-delà. L'être est au-delà de la distinction visible et invisible. L'être, il substantiel. Je dis non, mon intelligence n'est pas substantielle. Mais mon intelligence est au niveau de l'être. Si mon intelligence est au niveau de l'être, mon intelligence est capable d'atteindre la substance. Si elle est capable d'atteindre la substance, elle a donc une parenté avec la substance. Tout à fait. Elle est apparentée à la substance. Mais elle n'existe pas comme une substance. Parce qu'elle existe en fonction d'un être, d'une personne, qui n'est pas totalement spirituelle. La personne implique le corps. Et c'est la personne qui pense. Si la personne était totalement spirituelle, je pourrais me poser la question. Comme les anges, les substances séparées. Même chez l'ange, l'intelligence n'est pas substantielle. Elle ne peut pas, l'ange serait Dieu. Parce que ce serait l'identification entre être et vie. Or, les distinctions dans l'ordre de l'être et dans l'ordre de la vie ne sont pas les mêmes. Il y a deux niveaux différents. Et transplanter et projeter les distinctions de l'être sur la vie, ce n'est plus connaître la vie, c'est projeter imaginativement sur la vie les distinctions de l'être. Et projeter les distinctions de la vie sur l'être, c'est pas connaître l'être, c'est imaginatif. C'est pour ça que la distinction entre être et vie est si fondamentale. Et que c'est ce manque de distinction entre être et vie qu'on trouve chez les néoplatoniciens. Et comme les néoplatoniciens ont beaucoup plus d'enfants que l'aristotélisme, on peut dire que toute l'Europe, à part Thomas d'Aquin, est néoplatonicienne. C'est très très curieux. À part Thomas d'Aquin, à part Maxime le Confesseur, à part quelques grands, alors les grands théologiens atomistes. Et ce qui est très curieux, l'autre jour, on m'a montré un texte de Palamès, qui est le grand théologien des orthodoxes. Et ce grand théologien des orthodoxes dit on peut se servir d'Aristote, mais on ne peut pas se servir de Platon. Un texte extrêmement intéressant, parce que ça montre que, en réalité, il n'y a pas du tout d'opposition entre Thomas d'Aquin et les orthodoxes. C'est eux qui ont mal compris Thomas d'Aquin à cause de la scolastique. Parce que Palamès dit la même chose que Thomas d'Aquin. Palamès est le grand, grand théologien des orthodoxes. Ils reviennent tout le temps, ils reviennent à Palamès. Alors il dit ça. Il dit on peut se servir, si on est un croyant, on peut se servir d'Aristote. Pour faire de la théologie, mais on ne peut pas se servir de Platon. On tombe dans la confusion et on tombe dans une impossibilité de bien montrer ce qu'est la création. Ce qui est tout à fait juste. Parce que la création n'est pas au niveau de la vie, elle est au niveau de l'être. Bon, alors vous voyez, toujours, ma substance, c'est mon âme. Mais mon âme n'est pas ma tu existes, tu n'es pas vivant, hein, pas du tout. L'être et la vie peuvent très bien s'identifier dans la réalité, dans le pose. l'imagination comme telle n'est pas mauvaise, elle est de Dieu. Mais l'imaginaire, la zone de l'imaginaire gagne tout et essaie de gagner tout. Et lui, l'imaginaire ne veut pas de division et d'analyse. Il refuse ça parce qu'il règne dans la confusion et il aime la confusion. C'est l'imaginaire qui aime la confusion, c'est pas l'intelligence. L'intelligence aime la clarté, mais surtout l'intimité et la profondeur. Alors, vous essayez de saisir ce qu'il y a de tout à fait propre à la substance, principe selon la forme de ce qui est, principe et cause. Alors, l'induction me met en présence d'un principe qui est cause. Pourquoi ? Parce que le jugement d'existence est toujours présent à l'induction. Et donc, il s'agit d'exister un premier qui est dans l'ordre de l'être et pas dans l'ordre de l'intelligibilité. Purement et simplement. Mais c'est saisir un premier qui est dans l'ordre de l'être. Donc ce principe est cause. Et parce qu'il est cause, il a un lien spécial avec l'exister. Quel est le lien spécial de la substance avec l'essai, l'exister ? Ça, c'est un problème très intéressant donc, au point de vue métaphysique. Quel est le lien ? Alors, je peux poser la question comme ça, si vous voulez, on verra mieux. Quel est le lien de mon intelligence avec l'exister ? L'intelligence étant une des qualités. Quel est le lien de la substance avec l'exister ? Je dis que la substance est principe dans l'ordre de l'être. Donc, elle implique un lien de nécessité avec l'exister. Autrement, c'est pas principe d'être. Si l'essai est être et acte d'être, on verra ensuite qu'est-ce que c'est que l'acte d'être. Mais si l'essai est acte d'être, la substance a un lien immédiat avec l'acte d'être. Autrement, elle ne serait pas principe d'être. Donc, j'explicite, comprenez bien, j'explicite ce lien particulier de la substance, principe d'être, avec l'exister. Et je dis que la substance subsiste par elle-même. Faites le petit schéma pour vous aider, toujours un petit schéma, et puis dès qu'on a compris, on brûle le schéma. Hein ? Vous avez l'ousian. Pas oublier. L'ousia grec. Ce que Merleau-Ponty enseignant à la Sorbonne dira que l'ousia, c'est l'étance. Je le rappelle. Mais comme étance n'est pas un mot français, j'aime mieux dire ousia. Et le latin traduira substance. Alors, au point de vue étymologique, c'est terrible. Ousia est lié à toon. C'est pour ça qu'on met étance, puisque toon, ce qui est. Tandis que le mot substance latin, on est passé de ousia grec à substance latin, et le français a hérité du latin et pas du grec. Ce métaxu intermédiaire constant entre le français et le grec et le latin. facile de rester au niveau philologique que de saisir la signification philosophique. On a dit substance sur stare. Substare, c'est quoi? C'est se tenir en dessous. lien entre substance et l'essai, on dira que la substance subsiste. C'est sa manière propre d'être. Elle subsiste par elle-même. Katoto, percée, elle subsiste par elle-même. Alors voyez, la modalité concrète de mon âme créée par Dieu, de cette réalité créée par Dieu. Et puis la modalité au niveau des principes essentiels, de la structure de l'être créé. Cet être créé implique quelque chose. siècle subsistant en lui-même. Je vois que le point de vue de la forme et le point de vue de l'acte, le point de vue de la forme et le point de vue de la fin se réunissent dans une immanence. Donc, quand je dis que la substance subsiste, j'exprime ce caractère tout à fait particulier de ce principe qui implique un lien de nécessité avec l'existé.